Les passions de Camille avec Camille Chaille.
Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Camille Chaille. Vous écoutez Les passions de Camille. Et aujourd'hui, nos deux invités sont des athlètes. Des athlètes qui ont mené plus d'un combat, ça vous allez le comprendre assez vite. Ils viennent nous raconter leur parcours extraordinaire. Ils ont tous les deux fait preuve d'une résilience colossale, vous allez être d'accord avec moi. Et qui dit athlète dit guerrier. Alors j'ai choisi une petite citation de Paulo Coelho, tirée de son livre « Manuel du guerrier de la lumière ». C'est une citation qui m'a inspirée et que j'ai envie d'offrir à nos deux invités aujourd'hui. Alors je vous la lis. « Emporte dans ta mémoire pour le reste de ton existence les choses positives qui ont surgi au milieu des difficultés. Elles seront une preuve de tes capacités et te redonneront confiance devant tous les obstacles. » Et ça, bien sûr, nos deux invités l'ont expérimenté. J'ai le plaisir de recevoir Geneviève Allé et Dave Janoussir. Ma première invitée a 41 ans. Elle a été planchiste de haut niveau et sportive depuis son jeune âge. En plus d'être graphiste, photographe, artiste peintre et adrénaline junkie, rien de moins. Bonjour Geneviève Allé.
Bonjour Camille.
Comment tu vas?
Ça va très bien. Toi?
Oui, très bien, merci. Alors Geneviève, adrénaline junkie, c'est quand même pas rien. C'est pas tout le monde qui se dit être ça. Toi, t'as toujours aimé faire du sport, t'as testé beaucoup de choses, dont la gymnastique pour commencer.
Oui, j'en ai fait pendant plusieurs années, de très jeune âge jusqu'au secondaire en sport-études. Puis j'ai fait beaucoup de compétitions, en fait, avec cet entraînement-là. Mais avec les années, j'ai goûté au snowboard, puis c'est ça qui a pris le dessus, rendu plus tard au secondaire.
Mm-hmm. Et là, le snowboard, je veux dire, ça c'était au secondaire, mais à tes 22 ans, tu t'es retrouvée en fauteuil roulant d'un jour à l'autre.
Oui, exactement.
Pourquoi?
En fait, j'étais en compétition US Open, justement, en planche à neige en 2001. Puis, en fait, cette compétition-là allait décider si j'allais avoir un contrat comme planchiste, pour faire devenir comme un métier avec mon commanditaire. Mm-hmm. Donc, c'était quand même une journée importante. La première journée de préqualification, je suis arrivée deuxième. Puis le lendemain, j'étais en compétition avec les pros. Puis dans ma deuxième descente, j'ai fait une mauvaise chute et je me suis cassé la colonne sur le cou. Mmh.
Donc, quand même.
Ouais.
Et tu as fait une chute. Comment ça s'est passé? Quand tu tombais, évidemment, j'imagine que tu étais consciente que là, il allait y avoir quelque chose qui s'est passé. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu as perdu connaissance?
Non, en fait, sur le coup, je suis tombée. Puis... j'ai su tout de suite là, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'avais l'impression que toute ma cage thoracique avait explosé. Mmh. Parce que ça, j'ai fait une manœuvre inversée, mais j'avais trop d'auteur. Je suis pas arrivée au bon endroit. Je me suis agrippée la tête. Je me suis probablement sauvée de me casser le cou. Ça, c'est un bon réflexe de gymnaste. Oh. Mais ça n'a pas sauvé le dos. Puis j'ai vraiment compris que ça n'allait pas quand le secouriste m'a pris les pieds en me disant « Est-ce que tu sens? » Puis que j'ai répondu « Non ». Je savais que c'était quand même grave.
Oui, ouais. C'était terminé, quoi. Depuis ce jour-là, tu n'as jamais eu aucune sensation dans tes pieds?
En fait, à partir de sous la poitrine, j'ai aucune sensation.
OK, quand même. Ça part
ouais.
De haut.
Oui. Ouais. Ben, quand... Des fois, les gens me voient en fauteuil roulant puis ils pensent que bon, c'est juste les jambes qui ne fonctionnent pas, mais je n'ai pas d'abdos. L'équilibre... j'ai un peu de dorsaux encore de ma vie de gymnaste qui m'aide à avoir un bon équilibre, mais quand même, ouais.
Mais heureusement, en fait, que tu as, malgré cet accident, heureusement que tu avais la gymnastique dans ton parcours sportif juste avant, parce que j'ai l'impression que ça te sauve quand même un peu, c'est un avantage.
Oui, beaucoup, puis surtout juste après l'accident, on apprend à se transférer. Tout ce qu'on fait, on le fait avec l'usage de nos bras. Puis moi, ben j'étais habituée de marcher sur les mains, de faire beaucoup de choses juste avec mes bras pour supporter tout mon corps. Donc ça a été un gros avantage là, pour réapprendre comment vivre ma vie sans mes jambes.
Oui, j'imagine bien. Et comment ça s'est passé? Bon, il y a le sauveteur qui est venu te voir et tout. La suite, c'était quoi? Est-ce que tu as dû te faire opérer?
Oui, en fait, j'ai été transférée à un hôpital qui était spécialisé dans la moelle épinière, tout ça, en Albanie, dans l'État de New York, où j'ai subi une opération où on a mis des tiges de métal dans ma colonne. J'avais également une scoliose, donc les tiges que j'ai sont quand même importantes parce qu'ils ont décidé de fixer un peu plus haut la colonne. C'est ça, là, j'ai passé une semaine là, aux États-Unis à l'hôpital et ensuite j'ai été transférée au Québec.
Et ça se passe comment dans la tête d'une jeune femme de 22 ans qui, je veux dire, t'étais complètement active et là, tu te retrouves dans un fauteuil roulant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là, dans les tout premiers moments?
J'ai quand même eu une attitude. Je pense que beaucoup d'athlètes, on a ça en nous. J'ai vu tout de suite ça comme un défi, un autre défi à atteindre. J'ai regardé tout de suite vers l'avant. Je me suis pas acharnée à ce que j'avais pu. C'était plutôt bon, je suis en fauteuil roulant, je marche plus, comment ça fonctionne, comment je vais continuer. J'étais en mode apprendre déjà assez rapidement. Là.
C'est incroyable, tu avais une force de caractère. Les gens devaient être étonnés ou non? C'était pas étonnant pour eux de te voir comme ça? Ta famille, tes amis?
Ben, je pense pas parce que c'est quelque chose que j'étais déjà avant. Mm-hmm. C'est sûr que les infirmières qui s'occupaient de moi en réhabilitation, m'avançaient à dire que j'étais pas comme les autres, que j'avais comme sauté les étapes du deuil. Souvent, les gens vont pleurer beaucoup, ils vont toucher le fond, comme on dit, avant de remonter puis de se retrouver en réinsertion sociale. Mm-hmm. Puis j'avais comme déjà passé ces étapes-là comme assez rapidement, j'étais déjà prête à aller de l'avant.
C'est incroyable. Donc, tu n'as pas pleuré? Ouais.
Oui, j'ai pleuré un peu, comme... mais ça... je pense que c'est normal pour passer par là.
Oui.
Mais en fait, les moments où j'ai pleuré le plus, je pourrais dire, ce qui est drôle, c'est que mon copain est avec moi depuis un an, quand j'ai eu l'accident. Mm-hmm. Donc, il m'a supporté là-dedans. On est encore ensemble aujourd'hui.
Wow.
Puis, il venait passer les journées avec moi. Donc, je passais la journée avec lui. Mais le soir, au centre de réhabilitation, évidemment, il fallait qu'il quitte. Puis souvent, c'était là, le soir, quand je me couchais seule, que j'étais triste. Mais je pense que ce que je trouvais presque plus dur que de me retrouver en fauteuil, c'était de me retrouver sans lui le soir.
Mm-hmm.
De me sentir comme prisonnière au centre de réputation, de ne pas pouvoir être proche de lui, qui était comme mon réconfort, parce que je pense que j'aurais été j'aurais eu la chance d'être vraiment avec lui tout le temps. J'aurais été encore plus positive.
Oui, mais quand même, donc ton amoureux a été ton pilier, a toujours été ton pilier, en fait.
Oui, vraiment. Il m'a suivi depuis le jour 1, parce que quand on s'est rencontrés, je lui ai dit que notre couple allait pas fonctionner parce que je partais habiter dans l'Ouest pour m'entraîner justement en planche à neige. Finalement, il a décidé de me suivre après 2 semaines. Il a tout quitté puis il m'a suivi.
Wow.
Donc, puis même après l'accident, sans trop se parler, les deux, on avait comme déjà l'attitude qu'on allait rester ensemble. On retournait vivre notre vie à Whistler. Puis 3 mois après l'accident, on était repartis. Là.
Oh, que c'est beau! Je veux dire, puis apparemment que certaines personnes, quand tu faisais ta réadaptation, t'ont dit que c'était pas nécessairement ça qui allait se passer avec ta relation amoureuse. Beaucoup de gens, c'est pas tout le monde, mais il y en a pour qui ça arrive où effectivement les couples ne fonctionnent plus après un événement comme celui-là. Mais toi, t'as été l'exception à la règle.
Je suis sûrement pas la seule.
Non.
Mais je faisais pas partie... comme on dit, du moule ou de la tendance. Parce que ça, j'avais vu une travailleuse sociale, je l'ai vue seulement une fois avec mon conjoint. Puis les seules choses que je me rappelle qu'elle m'a dit, c'est justement que mon couple, de ne pas me faire trop d'idées parce que peu de couple durait après un événement comme ça, que notre couple allait probablement pas durer. Puis elle m'avait dit que malgré que j'avais une belle attitude positive, que j'allais toucher le fond à un moment donné, que j'allais devoir passer par ça. Mais là, ça fait 20 ans. Je n'ai toujours pas passé par ça.
Oui, effectivement, tu as des choses. Tu pourrais leur raconter des choses. T'es la preuve.
Ouais.
Est-ce
Donc,
que...
c'est pas un passage obligé.
Non, mais je trouve que c'est intéressant de l'entendre, puis si ça touche d'autres personnes, voilà, c'est... Chacun, on a notre rythme et on vit notre vie à notre façon. On a tous une personnalité qui est différente. Et puis toi, par rapport au deuil, parce que tu me dis que tu as un peu sauté des étapes et tant mieux à ton avantage, à partir de quand est-ce que tu penses que ton deuil a vraiment été fait?
C'est une bonne question, mais je pense que je l'ai faite sur le coup.
Oh, carrément.
Vraiment.
C'est
J'ai pas.
impressionnant, Geneviève.
Ben, je pense que j'étais un casse-cou, puis je crois que j'ai assumé les risques que j'ai pris.
Oui, c'est ça. Mais donc, t'as aucun regret non plus par rapport, tu sais, il y en a qui se disent, si j'avais pas fait ce sport-là, si j'avais pas fait telle chose, toi, j'ai l'impression que ça te passe jamais
Ah
par la
non, je.
tête.
Non, pas du tout. Le snowboard, ça a été un des amours de ma vie. Retourner faire. Moi, je dis pas que je referais la même manœuvre, mais pouvoir retourner dans un half-pipe puis sortir sans sentir qu'on vole ou dans les airs, je le referais demain matin.
Est-ce que ça te manque comme sensation?
Oui. Ouais, parce que les sports que j'aimais, c'était beaucoup des sports de figure dans les airs. C'est la gymnastique, le snowboard, c'était du plongeon. Donc, me retrouver libre dans les airs, c'est quelque chose qui est très peu accessible en fauteuil roulant. Donc, oui, ça me manque.
Puis là, bon, on aura la chance d'en reparler après la pause, mais tu as trouvé d'autres moyens d'aller chercher d'autres sensations fortes, mais on se garde ça pour après. Moi, je voulais savoir ton est-ce que tu peux conduire malgré tout?
Oui, ma voiture est adaptée avec des manettes. Donc, c'est l'adaptation minimum, là, puis je transfère ma chaise moi-même dans la voiture, là. Je la démonte, puis je la rentre dans la voiture.
Donc, tu es complètement autonome pour te déplacer.
Oui.
Et le fait que tu sois paraplégique, j'imagine que c'est, je veux dire, c'est pas la même chose pour tout le monde. Même si plusieurs personnes sont paraplégiques, toute personne aura une expérience ou un ressenti différent. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, exactement, parce qu'on n'a pas toutes. C'est comme il y a les douleurs neurologiques qui sont différentes d'une personne à l'autre, même si le niveau de blessure est le même. Des fois, certains vont avoir une sensation de chaleur ou de froid. Il y en a qui n'en auront pas. Il y en a qui ont des spasmes, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc, oui, c'est vraiment, peu importe qu'on aurait le même niveau de lésion, c'est vraiment du cas par cas, là.
Puis est-ce que, intimement, je veux dire, dans ta relation avec ton couple, les gens se posent beaucoup la question. Tu me dis que tu n'as aucune sensation en bas de la poitrine. Comment tu vis ça rapidement en termes de voilà, dans l'intimité avec ton copain? Est-ce que tu peux vivre ta sexualité quand même?
Oui, en fait, c'est sûr que ayant été ensemble avant l'accident, c'est quelque chose qu'on a réapprivoisé ensemble. C'est sûr que ça, c'est un point positif. Puis c'est ça, c'est de retrouver les choses qui nous donnent du plaisir malgré que je chante pas tout. C'est différent, mais on trouve moyen d'avoir du plaisir ensemble quand même. Mais c'est ça, tu sais, quand je dis je chante pas en bas de la poitrine, par exemple, si tu me pèses dans le ventre, je vais sentir la pression. Fait qu'il y a certaines sensations internes qui sont là. Fait que c'est pas les mêmes sensations qu'avant. C'est beaucoup plus léger, si on veut dire. Donc, tu sais, je sais qu'il se passe quelque chose, j'ai des papillons dans le ventre quand même, tout ça, mais c'est pas exactement comme avant, ça, c'est sûr.
Bon, mais je suis
C'est sûr
bien
que ça me
contente
manque beaucoup.
de l'entendre quand même. On va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après. c'était « I Will Survive » de Gloria Gaynor. Et on est toujours avec Geneviève Allais, qui est graphiste, entre autres, et qui est aussi paraplégique depuis ses 22 ans. Geneviève, comment tu réagis face au regard des autres? Parce que, bon, un fauteuil roulant, c'est visible, quoi.
Oui. En fait, je ne me soucie pas du tout du regard des autres. Puis je crois que quand on s'en occupe pas, ben on l'attire pas non plus.
Qu'est-ce que tu veux dire par « on l'accepte pas »?
Non, j'ai dit lorsqu'on on s'arrête pas à ça,
oui.
On n'attire pas le regard des autres.
Effectivement, je suis d'accord avec toi. Par ta forte et ta belle attitude, tu t'envoies tellement un beau message que les gens, voilà, tout ce qu'ils peuvent faire, j'imagine, c'est te faire un sourire.
Exactement.
Est-ce que tout à l'heure, tu me parlais de ton copain? Les deux, vous êtes quand même vous êtes amoureux de l'aventure, j'imagine. Vous avez aussi beaucoup voyagé ensemble, est-ce que je me trompe?
Non, on a fait, on a fait plusieurs voyages. Au début, on a fait plusieurs des tout inclus pour s'accommoder, apprendre à voyager un peu avec le fauteuil. Mm-hmm. Ensuite, on a fait un road trip en Californie, on est allé à Hawaï. On a travaillé un mois en hiver à partir des Bahamas.
Wow!
Oui. Puis on veut bien en faire d'autres. Là, on est juste pris à Québec avec la pandémie.
Oui, ça, on est tous au courant. Et donc, d'ailleurs, là est-ce que tu vis à Québec?
Oui, je vis à Québec.
OK. Depuis toujours?
Non, c'est ça. Quand j'ai rencontré mon conjoint, j'étais partie habiter à Whistler, en Colombie-Britannique, pour m'entraîner. Quand j'ai eu l'accident, ça faisait un an qu'on était là. On est retourné 3 ans après l'accident. Je voulais pas que ce soit l'accident qui me ramène au Québec. J'étais bien là-bas. Donc, on est revenu pour la famille, les amis, parce que, bon, ma belle-sœur était enceinte, tout ça.
Okay.
C'est sûr que dans un futur, j'aimerais pouvoir rester ou habiter dans un endroit où il fait chaud, que je peux jouer dans la mer.
Oui, je suis d'accord avec toi. Et tu as une idée où est-ce que ça se serait dans le meilleur des mondes?
Pas définitif, non. C'est sûr que c'est un endroit comme le Costa Rica ou justement les Bahamas, quelque chose comme ça. Là. Mais c'est pas encore quelque chose de très concret. Là. Mm-hmm. On en parle, mais c'est pas définitif encore ou quoi quand.
Là, tu parles de déménager, d'habiter ailleurs, mais est-ce qu'en ce moment, l'endroit où tu habites, est-ce que c'est adapté pour ton fauteuil roulant?
Oui, ça répond à mes besoins. C'est le premier condo qu'on a vraiment... sous les éviers, j'ai un trou, j'ai une petite rampe pour aller sur ma galerie, j'ai un stationnement souterrain, donc c'est parfait pour moi.
Tu es très bien où tu es.
Oui.
Et là, j'ai envie que tu me parles un peu d'anecdotes. Est-ce qu'il y a eu des malaises que tu as pu vivre avec certaines personnes ou des choses que les gens te disent parce qu'ils oublient que tu es en fauteuil roulant?
En fait, j'ai eu une fois une cliente qui savait très bien que j'étais en fauteuil, puis qui m'avait appelé en me disant « J'ai de quoi t'annoncer, t'es-tu bien assis? » Mais là, en disant « J'ai senti le malaise avec vous, mais moi, j'ai trouvé ça très drôle. Puis, il n'y a pas si longtemps, j'ai une amie, on était dans un week-end de filles dans un chalet, puis on était autour de l'îlot, tout ça, puis là, j'ai tend un tabouret pour que ça soit, puis là, elle me regarde, elle dit « Ah! » Elle dit « Non, merci, je passe ma vie assis. » Mais là, le fou rire!
Oui, tu sais de quoi elle parlait.
Oui, exactement.
Mais tu vois, c'est drôle parce que je le vois que pour beaucoup de personnes, même si le fait de dire oui, le fauteuil roulant est très voyant, comme une personne comme moi, par exemple, qui a une prothèse, les gens le voient. Mais pourtant, les gens finissent toujours par l'oublier en bout de ligne.
Oui. Donc, je pense que comme je disais tantôt, quand on n'en fait pas un cas et qu'on ne focus pas là-dessus, nous-mêmes, on l'oublie, les gens... On aide les gens à l'oublier aussi.
Mmh, tellement, tellement. Et tu es d'ailleurs un excellent modèle pour ça parce que je veux absolument que tu nous parles de tes passions. Tu en as plus d'une. Je trouve que c'est important de nommer même ton site Internet parce que tu as un site où tu justement parles de toutes tes passions. Mais donc, ton site, c'est genevièveallais.ca. C'est bien ça?
Oui.
Donc, GeneviEveHalle. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui sont curieux pour en apprendre plus sur toi, donc parle-moi un peu de tes passions. De quoi tu nous parles sur ton site?
Je fais de la photo. Ça, maintenant, je le joins plus à mon travail de graphiste. Je peins. Ça, j'essaie d'en faire plus pour percer un peu plus là-dedans. Puis, j'ai tous les sports que je fais du surf, du wakeboard, du vélo. Là, je me suis initiée l'hiver passé au freediving. Puis aussi, je fais du paddleboard adapté. On a parti un club de paddleboard adapté tous les mercredis soirs sur une rivière à Québec. C'est ça que cette année, ça a été annulé.
Oui, malheureusement.
Ensuite, j'ai parti un site web de vidéos d'entraînement pour les gens à mobilité réduite. Un site qui s'appelle Be Willing.
La liste est très longue, mais là tu me nommes plein de choses. Le paddleboard, d'ailleurs, par ça que moi j'ai fait ta connaissance, parce que j'ai eu la chance de tester le paddleboard avec toi pour la toute première fois. Et quand même, c'est toi qui a développé un peu l'adaptation pour les personnes paraplégiques ou les personnes qui veulent faire du paddleboard assis parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ça t'est venu tout seul parce que tu voulais tellement en faire que tu as inventé une adaptation pour faire ça.
Ben, en fait, c'est que pour les 40 ans de mon copain, je lui avais acheté un paddleboard parce que là, ça sortait. Là, c'était les débuts. Puis, une fois, on est allé au lac avec des amis. Puis là, je regardais la planche. Puis, c'est sûr qu'il y a de quoi à faire. Donc, j'ai pris un petit banc de plein air là, qui se plie à quelque chose de très simple. J'ai juste déposé sur la planche. J'ai mis un petit coussin. J'ai pris une pagaie de kayak. Puis là, je suis partie avec ça. J'ai compris, ça fonctionne. Fait que l'année suivante, je me suis équipée moi aussi pour en faire avec mon copain et puis mes amis. Puis depuis ce temps-là, on en faisait. Puis j'ai rencontré Pascal Martineau qui travaille à l'IRDPQ. Puis elle, quand elle a su que j'avais... on parle d'une invention, là, c'est tellement simple à quelque part ce que j'ai fait. Puis elle a dit, il faut faire connaître ça aux gens parce que c'est sûr que la plupart des équipements adaptés, c'est souvent compliqué sur mesure, ça coûte cher. Donc, avant de pouvoir pratiquer un sport avec son propre équipement, c'est souvent compliqué et coûteux. Tandis que cette idée-là fait que le sport est pas plus cher que pour quelqu'un qui marche.
Okay.
Puis c'est accessible, tu peux aller au magasin, être équipé, puis tu repars avec ton équipement. Donc, pour ça, c'est plaisant. Mais pour ceux qui veulent essayer ou qui n'en ont jamais... Puis avant de s'équiper quand même, bien, avec le club de paddleboard, c'est quand même une belle façon de l'essayer.
Complètement, mais c'est génial parce que moi-même l'ayant essayé, ça se fait tellement bien, c'est agréable, puis on se fatigue encore moins que les personnes qui sont sur leurs deux pieds. Mais je trouve ça génial, Geneviève, que tu aies rendu ça accessible à d'autres personnes. Là, tu me dis que tu es à Québec. Est-ce qu'une personne, par exemple, qui est à Montréal ou dans les environs peut accéder à ça?
Bien en fait, c'est sûr qu'on se déplace là, pour certains événements, là, comme le Subfest, là où on s'est vu aussi là, l'année passée.
Oui.
C'est sûr que cette année, bon, encore une fois, ça n'aura pas lieu, mais sinon, c'est sûr que si quelqu'un veut monter à Québec et s'organiser avec nous pour nous essayer, ça peut être de communiquer avec nous.
Via ton site web?
Via mon site web ou la page Facebook de Paddleboard adapté.
OK.
On a une page Facebook. Le lien est sur mon site web aussi, en fait.
Génial.
Puis, je sais qu'il y a une autre gang aussi à Montréal qui en font, mais eux, c'est plus avec des fauteuils sur la planche.
Ben, écoute, ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés, je vous invite à aller donc sur ton site Geneviève, genevièvealley.ca. Geneviève, c'est déjà la fin de l'émission. Alors, oui, exact. Mais merci infiniment, Geneviève, de nous avoir raconté ton histoire et de nous avoir inspiré de bien des façons.
Mais ça fait plaisir.
Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois le boxeur Dave Janossir.
Vous écoutez Les Passions de Camille.
Oui, Les Passions de Camille avec Camille Chai. Je suis avec vous encore pour la prochaine demi-heure et j'ai avec moi en studio mon deuxième invité. Il a 31 ans. Il entraîne des jeunes à la boxe. Il a été un joueur professionnel de poker et c'est aussi surtout un homme au grand cœur. Et là, sans plus tarder, je vous présente mon cher ami Dave Janossir. Allô, Dave.
Allô, bonjour. Merci beaucoup pour cette introduction vraiment gentille de ta part.
Mais ça me fait plaisir parce que, en fait, moi, un de mes plaisirs dans cette émission, c'est de recevoir de mes amis et tu en fais partie. Donc, je suis contente, Dave, de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que je veux que tu nous racontes ton histoire qui est particulière, qui est unique. Mais toi, en fait, tu as vécu ta vie comme tous les autres garçons jusqu'à l'âge de 25 ans. Et à 25 ans, tu as eu un accident. Est-ce que tu peux me raconter tout ça?
Oui, en fait, je vais commencer plus jeune, vous parler un peu de mon parcours. Moi, j'ai lâché l'école très jeune. Mon rêve, c'était de devenir professionnel de poker. C'est un domaine un peu difficile. Si tu fais pas partie de l'élite ou t'es pas toujours discipliné, tu vas rencontrer plusieurs difficultés. Donc, moi, ça a été mon cas. J'ai dû travailler dans plusieurs domaines. Dans les dernières années, je travaille sur un projet qui me passionne beaucoup. J'aimerais aider les organismes à but non lucratif. En fait, j'ai envie de promouvoir le don de soi. J'ai envie de montrer aux gens à quel point, si on ferait juste un petit peu plus, on aurait un très grand impact dans notre communauté. J'ai aussi un volet que je veux démontrer à quel point on est tous inspirants. T'sais, même moi, des fois, il y a des jours que je me trouve inspirant, mais t'sais, si j'aurais une caméra sur moi 24/7, c'est pas tout le temps le cas. Donc, si on utilise notre énergie à bon escient, je crois qu'on peut tout être inspirant. T'sais, je vous parle de la femme monoparentale qui a 4 enfants, qui fait tout pour subvenir aux besoins de sa famille. Puis je peux parler aussi de toutes mes idoles, dont Camille Chai, qui, de par ses actions et son sourire, brille encore plus que le soleil de juillet.
Ah, oh, t'es gentil, Dave. Incroyable. Mais pourquoi? Parce que là, tu me parles, c'est magnifique, tu me parles de don de soi. Je veux dire, c'est ton parcours de vie qui t'amène à vouloir ces choses-là.
Oui, en fait, parce que j'ai souvent justement seulement joué au poker. J'adore le poker, c'est une passion pour moi, mais c'est beaucoup axé sur l'argent, le pour réussir. Tandis que je me suis dit un jour, je pense que je peux amener ma vie ailleurs. Je peux faire d'autres choses sans parler d'argent. Puis ça a commencé en fait 6 mois avant mon accident. 6 mois avant mon accident, j'ai arrêté de jouer au poker. J'ai travaillé sur mes idées. Et là, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Ça m'amène à mon accident. Parce que 4 jours, j'ai travaillé pendant 4 jours comme éboueur.
OK. Donc, tu ramassais les poubelles.
Exactement.
Ouais.
Et j'avais un petit bobo au pied. J'avais mal au pied. Le lendemain matin, je me suis réveillé. J'avais mal jusqu'au genou. J'ai appelé mon ami. J'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Donc, on est allé à l'hôpital. Au début, j'avais pas assez de gros symptômes pour me diagnostiquer. Donc, on m'a renvoyé à la maison. Sauf que le lendemain, les symptômes étaient tellement graves qu'on a compris qu'il y avait un problème.
Et c'était quoi comme type de douleur? Est-ce que tu voyais quelque chose sur ton pied ou si c'était à l'interne?
La première journée, je voyais rien. La deuxième journée, d'où la raison pourquoi ils ont vu qu'il se passe quelque chose, j'avais des rougeurs. J'avais des rougeurs. Donc, après ça, en fait, je me suis réveillé 8 jours plus tard et j'étais désarticulé de la hanche.
Carrément.
Ouais.
Donc, t'as pas été conscient du tout de ce qui s'est passé. Toi, t'as juste une douleur qui augmentait de jour en jour. Et ça veut dire quoi, être désarticulé de la hanche?
Désarticulé de la hanche, dans le fond, c'est que j'ai pas de moignon. J'ai pas de bout de jambe.
Okay.
Je suis vraiment le maximum. Puis la raison pour laquelle on m'a fait cette opération, c'est que si jamais... moi, je sais pas si je l'ai dit, dans le fond, j'ai contracté la bactérie mangeuse de chair.
Ah, voilà.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est ça qui a évolué très, très rapidement.
Exact.
La bactérie mangeuse de chair, là, on fait un lien. Est-ce qu'on doit faire un lien direct avec, justement, le fait que tu étais éboueur? Est-ce que tu penses que tu as été en contact avec quelque chose?
Oui, en fait, c'est sûr que ça vient de là, mais il y a tellement de moyens de contracter cette bactérie. Je veux dire, faudrait faire attention à pas mal tout. Mais l'important, c'est vraiment, quand on a une plaie, de se désinfecter, de se panser. Puis moi, j'avais des pansements. Mais le dernier jour que je travaillais, il mouillait à Sio. À la fin de la journée, mon pansement, il est plus sur mon pied. Là, je cours pendant 10 heures.
Ah, c'est assez intense physiquement. Mais là, Douglas, donc tu t'es réveillé de 8 jours dans le coma. Et c'est eux qui ont pris la décision de carrément t'amputer de la jambe gauche. Donc, quand tu dis que tu n'as pas de mognon, en fait, le mognon, c'est le bout d'un membre, si on peut dire ça comme ça. Toi, c'est il n'y en a pas, quoi. C'est la jambe au complet, elle a été enlevée.
Exactement. La raison pourquoi ils ont fait ça, c'est que si jamais la bactérie qui était très virulente continue de plus haut, elle pourrait atteindre mes organes.
Okay.
Donc, s'ils me laissent un bout de jambe, là, ça pourrait être drastique à ce moment-là.
Donc là, aujourd'hui, t'es sûr et certain que c'est terminé, quoi. Il n'y a plus aucun risque.
Tout est beau.
Tu le dis avec un sourire. Et donc là, toi, tu es en studio avec moi. Tu es rentré avec deux béquilles. Est-ce que tu te déplaces la plupart du temps en béquille?
Oui. Environ 95% du temps, j'ai mes béquilles. Mais lorsque je vais dans un endroit que c'est très accessible, je préfère en chaise roulante, puisqu'avec ma chaise roulante, j'ai mon coussin que je suis le plus confortable pour m'asseoir. Donc, c'est préférable avec ma chaise roulante, mais je suis tellement confortable avec mon oreiller
oui.
que c'est pas la fin du monde.
Puis là, je veux dire, on se pose la question aussi, une prothèse, est-ce que tu as eu le choix d'en porter une?
Oui, j'ai une prothèse, j'ai eu le choix, je m'entends pas très bien avec ma prothèse. Parce que, étant donné que je suis désarticulé, c'est vraiment un gros appareillage qui fait que je suis assis sur du dur. Moi, en fait, quand je suis assis sur mon ischion, mon os.
Ouais.
Donc là, quand on me met dans une prothèse, la pression est forte. Des fois, il y a des saignements dus au port de la prothèse.
OK.
Il y a d'autres désavantages avec la prothèse, donc elle est dans le
placard.
Ouais, dans le placard, c'est ça que je cherchais.
Mais puis je veux dire, moi, tant que tu es bien avec tes béquilles, tant mieux. Hein. Chacun, on trouve notre façon d'être bien, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui accepte, surtout après un accident, de porter une prothèse. Il y en a plusieurs, effectivement, qui font un rejet de cette prothèse-là. Et puis, pour qu'on ait une idée un peu de comment tu fais, par exemple, avec tes pantalons, sachant que tu n'as pas de jambes du tout, tu le portes comment, ton pantalon? Est-ce que tu as la partie de la jambe qui est vide, qui se promène?
Oui, ben c'est ça. Je le coupe à moitié. J'ai un petit bout de pantalon qui vole dans le vent. Là.
T'es poétique en plus. Et est-ce que... Je me demandais... cette bactérie mangeuse de chair, elle a changé ta vie. Est-ce que je peux me permettre de te demander si tu pouvais lui parler, lui dire quelque chose à cette bactérie mangeuse de chair? Qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais... Mets-toi au régime.
Oh là là! D'accord. Est-ce que tu lui en veux?
Ben non, ça fait partie de mon cheminement. Je m'arrête pas là-dessus à me dire est-ce que j'en veux à la vie, est-ce que j'en veux. Non, ça fait partie de ma vie. Donc, on avance.
Oui, puis ça, c'est important parce que là, ça fait déjà 6 ans que tu as eu ton handicap, c'est ça, de ton accident.
5 ans et demi, ouais.
5 ans et demi. Est-ce que. Là, tu me dis oui, tu regardes vers l'avant et c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est important. Au niveau du deuil, comment ça s'est passé? Est-ce que ton deuil est fait au moment où on se parle?
Oui, absolument. Même au début, j'avais une attitude très optimiste. Puis souvent, ce que je disais aux gens, c'est que j'ai vécu des choses, selon moi, qui m'ont fait plus souffrir que la perte de ma jambe. Donc, à ce niveau-là, oui. Ce que je crois que je suis en train de faire encore le deuil, puis ça a un rapport direct avec mon handicap, c'est que je trouve ça difficile, l'inconfort continu que j'ai. Parce que partout, je m'assis, je suis jamais vraiment 100% confortable. Là. Même avec n'importe quel oreiller, j'essaie de maximiser mon confort, mais c'est pas toujours plaisant. Donc ça, je trouve ça encore difficile à gérer mentalement parfois, les douleurs, encore des saignements après 5 ans et demi.
Ouais.
C'est faut que je fasse attention, puis ça, je trouve ça encore difficile, mais par rapport à tous les autres aspects, je l'ai bien vécu, puis je le vis encore très bien.
Incroyable. Est-ce que tu, de par ta douleur, est-ce que tu dois prendre des médicaments?
J'en ai pris pendant un certain temps. Il y avait ses avantages et ses désavantages, donc j'ai décidé d'arrêter ça. J'ai J'ai beaucoup de douleurs, mais c'est souvent aussi avant de me coucher. Durant la journée, mon corps, il a moins mal. C'est vraiment les douleurs fantômes. Souvent, les gens me parlent de douleurs fantômes. Moi, quand on en parle, ben là, juste là d'en parler, je la ressens un peu, là.
OK, donc elle est présente.
Mais quand j'en parle pas, je le ressens pas tant que ça. Puis le soir, avant de me coucher, là, toute la journée, surtout si j'ai été assis longtemps, ça les lance, là, t'sais. Donc ça, je trouve ça un peu plus difficile. Donc pour m'endormir, ça se peut, des fois, je prends un médicament, mais j'essaie de pas en prendre une habitude pour un peu dépendre de tout le temps les médicaments.
Est-ce que là, le fait que c'est un accident du travail, là, aller travailler, c'est un défi, j'imagine, mais t'as la CSST qui te dédommage pour ça. Est-ce que c'est assez pour en vivre?
Ben en fait non là, je veux pas dépendre de ça pour le reste de ma vie. C'est sûr, ça c'est vraiment une aide. Je suis vraiment chanceux de bénéficier de cette aide-là. Sauf que il faut que je trouve mes options là, parce que là, mes options sont limitées. Il y a tellement de choses que je peux plus faire à cause. Je peux pas rester assis longtemps, je peux pas rester debout longtemps, je peux pas manipuler les choses longtemps.
Ah
Donc
oui,
ça
il y a
devient
des
un peu
limites.
complexe, mais il y a tellement d'autres opportunités que je vais trouver mon
Tu
chemin.
t'inquiètes pas. Ben,
Non, non.
on va pouvoir reparler de ces autres opportunités tout de suite après la pause.
Thank you.
The Eye of the Tiger, The Survivor. Un petit clin d'œil pour mon invité Dave Janossir, parce que Dave, tu fais de la boxe.
Oui, effectivement.
Et t'en faisais même avant ton accident?
Oui, j'ai commencé environ 5 ans avant mon accident, donc ça fait à peu près 10 ans.
Puis le fait de faire de la boxe aujourd'hui sur une jambe, qu'est-ce que c'est quand même une grosse différence?
Oui, la raison pourquoi je me suis vraiment lancé là-dedans, c'est que à cause de mon handicap, je trouve ça un petit peu difficile de faire des sports adaptés, que je suis assis. Donc quand je fais de la boxe, je suis debout, je me défoule, je fais mon cardio, donc je suis vraiment en harmonie avec mon corps.
Ben oui, mais c'est magnifique parce que je l'entends bien que, voilà, une de tes plus grandes difficultés et inconforts, c'est le fait d'être assis. Mais je veux dire, on se retrouve assis dans bien des situations dans chacune de nos journées. Puis juste avant la pause, on parlait de le fait pour toi de te trouver un autre travail. Ce serait quoi un peu tes idées de choses que tu voudrais peut-être explorer?
Mais tout est en lien avec mon projet. Sinon, n'importe quoi, je pourrais gérer n'importe quoi. Tu sais, j'ai vraiment pas d'idée fixe, je suis large. Mon spectre est large. N'importe quelle opportunité qui peut s'ouvrir à moi, ça peut me donner le goût.
Oui, donc c'est de l'exploration en ce moment-ci.
Exact.
Là, je bifurque un peu, je change de sujet. Mais un sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, le fait que t'es un beau jeune homme, un bel homme de 31 ans. Ça fait 5 ans et demi que tu as eu ton accident. Le fait de draguer les femmes ou ton rapport, ton contact, tout simplement, avec les femmes, comment ça se passe maintenant que tu as une jambe en moins?
Ben, en fait, le premier contact est beaucoup plus facile parce que le fait d'avoir un handicap, ça crée beaucoup de liens que je ne créerais pas si j'en aurais pas. Des fois, je me fais approcher pour seulement me dire « Wow, c'est quoi tu fais? » Comme par exemple, une petite soirée, on va danser. Mais moi, si je me mets à danser, ça s'en vient assez rapide sur le dance floor. Là.
Je me dis,
ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est là, après ça, c'est plus facile d'aborder les femmes. C'est vraiment... c'est une chance, sauf que, tu sais, d'un autre côté, si je resterais chez moi, ça serait un désavantage.
Ben oui, tu manquerais des choses.
Exactement.
Qu'est-ce que tu penses qui attire les femmes, les filles qui viennent t'aborder, par exemple, sur une piste de danse? Qu'est-ce qui les attire, tu crois?
Ben, je pense que dans les hommes, les femmes, quand on dégage une certaine joie de vivre, c'est attirant, là, je veux dire. Le sourire est au rendez-vous, c'est fluide, la vie est belle, donc... ça, à une jambe, deux jambes, trois jambes, là. Il n'y a pas de secret, là, je veux dire, c'est ça qui se passe.
C'est ce qu'on a à l'intérieur et ce qu'on dégage à l'extérieur, peu importe l'enveloppe, comme tu dis, c'est ce qui est attirant pour autant un homme qu'une femme.
Exact.
Et moi, j'adore entendre des anecdotes. Est-ce que tu as des anecdotes, des histoires à nous raconter ou, tiens, un pire malaise que tu aurais pu vivre?
En fait, au début, pendant 4 mois, j'avais une colostomie.
Qui est?
En fait, mes besoins, j'avais un sac pour faire mes besoins, dans le fond. Et première fin de semaine, un petit party avec les amis de mon père. Il faisait 31 degrés, il faisait chaud et là, on joue à un jeu. Et finalement, mon sac, avec la sueur, il a tombé. Sauf que là, je paniquais, là, le regard des autres. Après ça, j'avais pas de sac de rechange. J'étais à 10 minutes de chez moi. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'était la grosse panique. Mais ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'infection. Il n'y a rien eu. Mais le regard des autres, sur le coup, t'es pas habitué de vivre ça, là.
Ça crée un malaise,
absolument,
clairement, avec tout le monde.
Absolument.
Ça t'est jamais réarrivé par la suite?
Non, puis j'ai gardé ça seulement 4 mois, donc...
Okay.
Non,
c'était passager.
Ouais, exactement.
Est-ce que ça t'arrive des fois de tomber?
Ouais, ça m'arrive. De moins en moins. Des fois, admettons, je me rappelle une fois, j'étais frustré. J'ai voulu donner un coup de pied, mais avec la jambe qui n'existe plus. Donc, je suis tombé sur le pied.
Oh là là.
Ouais, et puis l'hiver, l'affaire qui est le plus dangereux pour n'importe qui vit cet handicap, qui a des béquilles finalement, l'hiver, il faut vraiment faire attention. Parce que quand on rentre dans un endroit l'hiver, quand même qu'on est bon, qu'on est habile, les béquilles sont mouillées. Les planchers sont pas faits pour des béquilles mouillées. Donc ça, c'est vraiment les fois que je me suis fait le plus mal, c'est je rentrais l'hiver. L'hiver, ça se passait bien dehors, mais je faisais attention à la glace. T'sais, l'hiver, t'es dehors, tu fais attention. Mais quand tu
Oui.
rentres, tu penses que c'est fini.
Oui.
Donc là, pouf, je suis tombé. Puis là, j'ai eu un 8 mois de blessure dû à cause d'une grosse chute. En plus, j'étais rendez-vous à l'hôpital. Une chance, j'étais à l'hôpital, le monde
T'étais à la
pensait.
bonne
Ah
place, mais...
ouais.
Aïe, 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 quand même. Et je me demande, oui, est-ce que tu conduis ta voiture?
Ouais, j'étais chanceux, j'avais même la bonne jambe. Donc, quand je suis
Oui.
sorti de l'hôpital le premier jour, je conduisais mon véhicule.
Génial, t'es ressorti tout seul, quoi. Mais comme tu dis que rester assis longtemps, ça te fait mal, j'imagine que pour toi, les longues distances, c'est pas l'idéal.
Évidemment, là, des fois, je fais mon tof, là, mais non, c'est pas vrai, j'aime pas ça aller à Québec, là.
J'aime ça, tu dis faire ton tof. Tu sais, je veux dire, le fait qu'il te manque une jambe, que tu sois en béquille, que tu aies eu la bactérie mangeuse de chair, oui, ça change une vie. Mais est-ce que tu penses que tu aurais été la même personne si tu n'avais pas vécu cet accident?
Non, absolument pas. Là. À certains niveaux, ça m'a renforcé mentalement sur tellement, tellement de points. Là. Tu vois plus la vie de la même manière. Puis après ça, des petits problèmes, des vraiment petits, les vrais petits problèmes qu'on se donne, là, ça
Ouais.
n'existe plus.
Mmh. Ça prend le bord, comme on dit, hein.
Ah oui, absolument.
Est-ce que tu as des frères et sœurs?
Non.
Enfant unique. Et tes deux parents sont proches de toi?
Oui, vraiment, j'ai cette chance-là. J'ai un bon entourage, là. Ça, c'est sûr qu'à mini, court, moyen, long terme, ça va m'aider, ça m'aide encore. Puis je remercie tout le monde qui me connaît, qui est alentour de moi, parce que sans ça serait 10 fois plus difficile, sinon 1000 fois plus.
Tout le monde le dit, hein, l'importance des gens qui sont autour de nous dans notre vie, c'est vraiment précieux. Puis on dit souvent, c'est quand on perd quelque chose, hein, qu'on prend conscience de la valeur la présence de ces personnes qui sont chères à nos yeux.
Absolument.
Dave, il nous reste quelques minutes seulement. J'ai vraiment envie de t'entendre, à savoir quels conseils tu donnerais aux personnes qui s'acceptent pas, qui sont mal dans leur peau, qui osent pas se montrer tels qu'ils sont.
Le conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas avoir peur, surtout pas honte. Moi, je crois que y a vraiment pas beaucoup de gens qui sont assez mesquins pour dire ou pour penser des choses pour nous rendre inférieurs, pour nous rendre mal à l'aise, peu importe. C'est vraiment minime, ces gens-là. Et dans le fond, je pense que ces peurs-là, c'est fondé sur des bases peu solides. Moi, je vais donner un exemple. Quand j'ai commencé à donner des cours de boxe, là, le regard des parents, le regard des enfants, j'avais peur. Est-ce que je suis vraiment à ma place? C'est quand même c'est le kangourou qui donne le cours. J'étais vraiment, j'étais pas sûr d'être à ma place. Mais une fois que j'ai eu des bons commentaires, puis que j'ai enlevé ces peurs-là, après ça, j'ai amené là, le regard des autres à toutes les autres sphères de ma vie. Il était plus là. Donc, je pense que c'est vraiment le déclic, il est pas facile à faire, mais aussitôt qu'il est fait, c'est fini. On n'a plus peur. Je pense que c'est le temps de l'anéantir, de vivre pleinement, mais surtout simplement. Je pense que c'est ça que je fais. En fait, je fais juste vivre. Là, moi, aller au cours, donner des cours, donner de mon savoir, ça me permet d'être heureux, puis je fais juste vivre simplement. Puis je pense que quand je fais ça, ben ça l'inspire des gens. Puis il y a des gens aussi que si vous agissez comme ça, ben ils vont probablement se remettre en question sur beaucoup de choses dans leur vie, puis vous allez les aider sans même leur
Oui,
parler.
oh oui, c'est très puissant. Puis, il y a quelque chose que tu as fait aussi qui a eu un impact énorme sur les gens à ton club de boxe. Tu as une anecdote à me raconter à ce niveau-là par rapport à un discours que tu avais prononcé?
Oui, en fait, ben, je vais raconter mon anecdote, dans le fond. J'avais encore 2 jambes à l'époque. À l'époque, il me restait. Je ne savais pas combien de temps qu'il me restait, on s'entend.
Oui.
Mais j'avais déjà un rôle de soutien dans mon club de boxe. Puis des fois, je faisais des petits speeches aux jeunes, puis là, je les ai arrêtés. J'ai dit, écoutez, je viens de lire une citation de Terry Fox. J'ai pas la citation exacte, mais la citation dit en gros, attendez pas qu'un drame comme ça vous arrive avant d'aller à 110% pour accomplir vos rêves. Puis dans le fond, une dizaine de jours, je me retrouvais dans le coma. puis j'ai perdu ma jambe. Donc, 10 jours
après
ce discours-là, imaginez les gens dans le club de boxe quand ils sont venus me voir dans le lit d'hôpital. C'est toute une histoire.
Et les gens, quand ils te revoient aujourd'hui, après ça, ils te voient justement donner des cours, être entraîneur. Là, le message, il est surpuissant.
Ouais, puis j'aimerais rajouter aussi que cette phrase-là, cette anecdote-là, je me la répète dans mes moments plus difficiles parce que, dans le fond, là, j'ai une jambe. J'ai peut-être moins ou plutôt différentes opportunités qui s'ouvrent à moi, mais j'ai encore des mauvaises journées. C'est pas fini, puis je sais pas qu'est-ce que demain va me réserver. Donc, si je suis dans un apitoiement continuel de mon sort, il va rien se passer.
Oui, ça donc, donne quoi?
Exactement.
Il n'y a rien à gagner.
Demain, c'est quoi? Il va peut-être arriver quelque chose de pire. On peut pas prévoir. Donc, je pense qu'il faut que j'aille à 200% pour réaliser tous mes rêves, dans le fond.
Ce que je trouve magnifique, c'est que ce conseil que tu as partagé aux autres, tu te le répètes à toi. Donc, t'es le meilleur modèle. Tu sais très bien de quoi tu parles. Moi, Dave, je veux... Tu sais, quand on dit « il n'y a rien qui arrive pour rien », je remercie la vie de t'avoir mis sur mon chemin parce que tu es une personne qui est tellement attachante. T'as un message de résilience qui est hyper puissant. Bravo et je te souhaite le meilleur pour le reste de ta vie. Merci infiniment, Dave.
Oh, merci infiniment à toi, Camille. Merci de m'avoir invité. C'est tout un honneur.
Et je remercie toute l'équipe de l'émission Les Passions de Camille, Maurice Bolduc, Claire Guérin, Jean-Sébastien La Liberté. Merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours fidèles à votre poste, j'ai envie de dire, d'être avec nous. Et si jamais vous voulez réécouter cette émission ou la partager, rendez-vous sur le site canalm.vuesetvoix.com ou sur les plateformes de diffusion des balados, Google Podcast et Apple Balado. Et je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir.